cinéma est mort.
Tony.
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30. Pourtant, moi, j'étais fatigué.
J'y passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Mon Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Weapons on you, sir.
No, sir.
Why are you running from us?
Had a long day, man.
You didn't see the lights back there?
Oh, yes, I did.
What did you toss out of the vehicle?
Excuse me?
What did you toss out of the vehicle back there?
Trash.
You sure about that?
Yes, ma'am.
You been drinking today?
I've had a few.
A few what?
A few small beers.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B, la deuxième partie de notre programme consacré à l'année 2025, toujours en compagnie de nos invités. Je vais les présenter bien évidemment, je vous rappelle que la première partie est disponible en podcast sur le site de Canal B. Nous sommes bien évidemment avec le docteur Moreau, bonjour Antonin.
Salut les kids.
Et merci d'être toujours avec nous.
Je suis toujours présent, aujourd'hui. Toujours debout.
En compagnie autour de cette table remplie de chocobons, de saucissons, de fromages et de merveilleuses victuailles et de Jules Topoc. Bonjour Jules Topoc, notre intérimaire, merci d'être...
Salam alaikum, mais on est toujours là.
Oh, putain, bravo. Et puis toujours enfin libéré de leur radio d'étudiants, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est comme ça. Thomas, bonjour Thomas.
Shalom les kids.
Et je rappelle, hein, que, faire de la promotion un peu quand même pour une émission concurrente que
mais
vous...
Mais néanmoins
avez...
amis.
Bien sûr, évidemment, si tu le dis. Attendant Godard sur Silab.
Exactement.
En compagnie de Erwan, le doc Erwan. Bonjour Erwan.
Bonsoir.
Et merci à vous d'être toujours avec nous. Dans une...
Merci à toi Étienne.
Oh, arrête tes conneries. Dans une première partie, vous avez été snob comme il fallait, élitiste, à parler de films brésiliens, portugais, des films de gonzesses, tout ça machin. C'est bien, c'est voilà, c'est fait. Et maintenant, on va parler de cinéma américain pour de vrai, et puis de choses.
Du vrai cinéma. Plus,
voilà, du vrai cinéma, celui qu'on affectionne, celui dont les gens parlent, celui qui intéresse les auditeurs surtout, parce que là, la première partie, ils ont dû quand même un peu se faire suer, hein, entendre parler de tout ça, mais c'était voulu. Et enfin, ils ont pu entendre voilà, des choses intéressantes. Là, on est parti sur un truc un peu plus léger parce que tout le monde a déjà entendu parler des films qu'on va évoquer aujourd'hui, ces grands succès, du moins critiques, hein, de 2025, qui sont grosso modo dans les... qui apparaissent dans les tops d'un peu tout le monde, y compris autour de cette table. On va les découvrir au fur et à mesure. Je laisse la surprise aux auditeurs. C'est comme ça aussi que les gens vont écouter la suite, parce que sinon, après, ils vont aller sélectionner, ils vont chercher... Non, non, vous allez écouter en entier, comme des grands, et vous n'allez pas faire chier. Et c'est moi qui démarre cette émission avec un film que je pensais vraiment pas foutre dans mon top au départ, même si dans mon top, de toute façon, il n'y a aucun... vrai coup de cœur, c'est que des films imparfaits, et le premier dont je vais parler, donc Sirat, de ce réalisateur dont la dégaine me m'horripile et dans les postures,
vraiment l'esprit critique au top, hein, c'est,
J'y suis vraiment allé à reculons, Sirat, parce qu'en effet il a
comment
joué,
il s'appelle le réal,
Olivier Lax, un truc
Olivier Lache.
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 Lache comme du lait.
Oui, non, c'est leche le lait, là c'est lache.
T'es sûr? Oui. T'es sûr qu'en portugais on dit pas lache?
Oui.
Le fait est que Sirat a joui à Cannes, où il a été présenté d'une réputation qui évidemment faisait peur, puisqu'il était comparé d'un coup à Sorcereur par exemple. On est face à une expérience comme Sorcereur de William Friedkin. J'ai du mal à y croire évidemment, et je sais que c'est impossible de reproduire ce genre de cinéma, donc j'y vais à reculons. Et la première séquence du film m'a d'ores et déjà fait sortir de l'objet, c'est-à-dire qu'on est dans une teuf au milieu du désert, une teuf où les gens n'ont pris aucune drogue et ils sont tous gentils, et je n'y crois absolument pas. Non, je n'y crois pas. En tout cas, si les gens ont pris de la drogue, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. Et je ne crois pas à cette teuf. Et je vois Sergi López, que j'aime beaucoup, que j'affectionne.
C'est qu'on peut faire la fête sans prendre de drogue.
Mais toute cette première partie, tu as déjà fait des teufs. Toute cette première partie, voilà, je n'y crois pas. Et il a fallu que je l'ai regardé dans de bonnes conditions à Los Angeles. Et j'ai arrêté le film au bout d'une heure. Après cette séquence que je vais divulgâcher, c'est ce fils dans la voiture qui tombe dans une falaise parce qu'il est dans la voiture et qu'il n'a pas mis le frein à main, parce que les enfants ne savent pas conduire, c'est gogol. Et je me suis arrêté là en disant j'en ai marre, je ne crois pas à cet objet préfabriqué qui me semble être un objet de poseur, clairement. Et je m'y suis remis plusieurs jours plus tard en me disant je suis professionnel. Je vais finir ce film. Et j'ai fini. Et cette deuxième partie où on rentre vraiment beaucoup plus frontalement en fait dans un objet de survival, selon moi en tout cas, et qui va en effet s'accentuer et puis réutiliser des séquences que moi j'aime bien, le champ de mine, des choses comme ça. Voilà, qui là pour le coup me paraissait beaucoup plus franc du collier dans son objet. Avec presque une économie une écriture de série B. J'ai retrouvé quelque chose comme ça dans une deuxième partie qui là pour le coup m'a embarqué, et la séquence finale qui ramène clairement à une situation particulière et universelle un petit peu m'a vraiment plu en fait, et m'a donné même envie, j'ai pas eu l'occasion de le faire malheureusement, de revoir cette première partie en essayant de mettre de côté les problématiques que j'évoquais, à savoir de ce cinéma de poseur, un petit peu, en tout cas pas assez. Ça manquait d'une forme de trivialité et on était un peu trop dans l'image dans cette première partie. Moi, ça me fait. Et cette deuxième partie, pour le coup, on était plus dans l'univers du cinéma en fait.
Qu'est-ce que tu veux dire dans un peu trop dans l'image?
C'est ce que tu m'as, t'as pas écouté la fin de ma phrase. Un peu trop dans l'image, dans le sens où son installation pour moi est un échec. L'installation du film est un échec puisque justement il ne parvient pas à me faire croire à la véracité de ses personnages. Et dans ce genre de cinéma, pour moi, c'est un vrai problème. Si dans un film comme ça qui se veut un petit peu, qui veut un peu te prendre par les couilles ou te prendre à la gorge pour t'entraîner dans ton histoire, il faut que tu croies très vite au personnage, selon moi. Et là c'était pas le cas ni pour les personnages de Topher, ni pour ce père qui cherche sa fille en fait.
Mais pourquoi tu trouves que ça marche mieux dans la deuxième partie? Moi, je trouve justement que la deuxième partie est beaucoup plus
Parce que parce que là pour le coup on est plutôt dans des situations, on est moins dans des problématiques de personnages et on est plus dans une problématique de situation, et ces situations là pour le coup elles fonctionnent pour moi en fait. Et le souci venait d'un problème d'écriture sur la caractérisation des personnages et comment on les présentait. Et évidemment du coup il peut se passer n'importe quoi, on n'y croit pas, mais à partir du moment où on passe vraiment dans une écriture de situation, de ce concept
plus,
de survival,
ça
en fait.
Plus des figures que des personnages.
Je sais pas, faudrait que je revoie cette première partie pour m'en rendre vraiment compte. Le fait est qu'en tout cas, je n'avais pas accroché, moi, cette première partie. Attention, essuie-toi, Thomas. Et là, cette deuxième partie, oui, j'ai été entraîné plutôt. On se moque un petit peu des personnages, même si il y a un groupe qui s'installe dans mon souvenir. Voilà l'histoire du groupe et comment les personnages vont se rattacher. Mais pour créer un groupe, là, ça fonctionne dans la deuxième partie, ce qu'il n'y avait pas dans la première. Mais c'est pour ça que j'avais envie de revoir le film dans son intégralité à un moment, parce que je suis sans doute passé à côté d'une installation que j'avais mal perçu en fait. Je m'intéressais peut-être un peu trop justement à des personnages ou à des choses qu'ils montraient, alors que c'est pas ça qu'ils voulaient montrer. Ils voulaient montrer, je pense, des personnalités qui se désintègrent, enfin en tout cas qui s'isolent, et pour finalement recréer une communauté qui va malgré tout encore une fois exploser. C'est un peu compliqué peut-être ce que je raconte, mais
après,
mais...
le truc c'est que l'objectif du film, je pense qu'il se met sur un, il est sur une dimension sensitive, il se veut sur une dimension sensitive quoi. Enfin c'est l'approche musicale. Hein, dans un premier lieu, mais c'est aussi en rapport d'image quoi, où voilà, t'as une logique dans l'enchaînement des plans qui se veut immédiatement sensuelle, sensitive, créer des effets et tout. C'est vrai que bon, moi je me suis beaucoup posé la question, même si je ne l'ai vu qu'une fois et que j'aimerais bien le revoir une deuxième fois, ne serait-ce que pour vraiment plus fourbir mes arguments à l'encontre de ce film que j'ai trouvé nul, mais vraiment, parce que vraiment je l'ai vu, moi je me suis dit, mais ouais, il n'y a rien qui marche avec la première ou la deuxième partie, pour moi c'était la même chose, je ne vois pas du tout l'intérêt du truc, je trouve que le truc ne tient pas debout nulle part, et qu'il n'est que dans une logique sensitive un peu dépourvue de tout fondement, quoi. Là, moi, les plans qui me reviennent du film, qui m'interrogeaient au tout début, c'est genre, il y a un plan, un moment, dans la montagne, là, dans le Maroc, avec une installation
de lumière,
là. Hein, je sais pas comment ça s'appelle, hein, c'est un truc artistique, là, comme les illuminations sur la place de
l'Elysée. Sur le Parlement.
Mais qu'est-ce que ça vient foutre là ? En fait, qu'est-ce que ça vient foutre là, ce truc-là, quoi ? C'est juste. Et là, je me suis dit, bah oui, c'est un peu. Un peu comme dans toute la logique du film, tu dis, bah, c'est parce que c'est assez joli à regarder, quoi. Et que c'est un petit peu mystérieux. Donc, en fait, tu peux y projeter ce que tu veux, si tu veux, quoi. C'est joli, c'est des formes géométriques sur un univers chaotique qu'est la nature. Ok, très bien. Moi, je pourrais adhérer dans ce genre de truc, ce que je peux aimer dans certains moments de Source Horreur, quand un excès de naturalisme, un excès d'incarnation va pousser vers l'abstraction. Très, très bien. Je vois très bien que lui, il a vu ça et que c'est ce vers quoi il tend, d'avoir un excès d'incarnation qui va aller vers une sorte d'abstraction totale, quoi. Mais sinon, je vois pas. Moi, j'ai l'impression que le film, j'ai l'impression de l'avoir. Je sais même pas. En fait, le détester, ça serait presque lui accorder trop de crédit, parce que je vois bien qu'à chaque fois qu'on en parlait, tu te dis, bah ouais, c'est parce que t'as refusé le truc parce que t'es trop fort. Je dis, bah non, c'est que je m'emmerdais.
Qui t'a dit que t'étais trop fort ?
Et non, le film était trop fort. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, pour le coup, où je peux pas nier que ça m'a fait beaucoup d'effet et que je l'ai rejeté fondamentalement, c'est que c'est le truc de la mort du gamin. Et clairement, je me suis pas mal posé de questions là-dessus. Je me dis, mais ouais, clairement, moi, cette scène-là, c'est juste insupportable. Alors, c'est insupportable, évidemment, dans un premier lieu, personnel, c'est que moi c'est très dur de regarder ça pour moi,
parce que
mais
c'est
surtout
bagnole.
Que je trouve que la scène et puis la bagnole quand même
pas mal.
Mais en fait j'ai trouvé tout maladroit et tout mais
moi,
vraiment
c'est la scène qui m'a
très
qui m'a mis
amené,
j'ai vraiment pas aimé cette scène, je les trouve ça me paraît une facilité.
Ouais, c'est un peu putassier en fait.
Voilà, c'est ça.
C'est même très très largement putassier, quoi. Enfin, je veux dire,
et toute la dernière heure, c'est que ça aussi.
Et puis même le il y a, c'est même putassier au point que, si je me rappelle bien, dans l'enchaînement des plans, t'as quand même un plan où on le voit jouer dans le truc. Donc ça, il y a un côté grammaire cinématographique classique de genre, je crée un suspense, je crée un truc, quoi. Donc tu vois le truc venir. Donc tu dis, ok, c'est quand même maladroit. C'est le et alors que c'est de la mise en scène classique, hein. C'est pas juste un effet d'un coup t'as la voiture qui court. Même s'il n'y avait pas ce plan là, la scène elle est pas pareille, quoi. S'il a foutu ce putain de plan là, c'est qu'il croit encore à une sorte de mise en scène un peu classique, mais sauf qu'il se vautre parce que c'est maladroitement amené. Et là, moi je déteste ça. Et toutes les scènes qui pourraient rappeler tous les films que nous on adore, les sorcereurs, ou même en parlant d'autres gros films de gros camions qui sont sur des endroits isolés.
Salaud, par exemple, parce que ça rappelle d'autres trucs.
Ça rappelle plein d'autres trucs, puis même les Mad Max évidemment, mais moi j'ai trouvé ça même enfin, en termes de grammaire de cinéma d'action, plutôt mal branlé, quoi. Enfin, les coups des pneus sur qui sont à bord de falaise et tout ça, tu dis, j'ai trouvé ça, mais pas très très bien mis en scène, quoi. Je veux dire,
la traversée de la rivière, par exemple, c'est super pauvre.
Je tiens le salaire de la peur pour bien inférieur à Sorcerer, mais même dans le salaire de la peur, c'est largement supérieur.
Le salaire de la peur, c'est
non, mais c'est haut de gamme, enfin, c'est vraiment haut de gamme. Mais par contre, c'est moins bien que Sorcerer, et je pense qu'il est plus à lorgner du côté de Sorcerer, parce que dans Sorcerer il y a un côté un petit peu justement abstrait, expérience métaphysique et tout ça, alors que Salaire de la Peur, non, c'est pas assez existentiel, c'est pas métaphysique. Voilà, mais moi je
qui voudrait incroyable. Prendre la défense de Syrat
un tout petit peu, au-delà du fait que je sois vraiment d'accord avec vraiment les problèmes d'écriture, de twist et de retwist et de retwist et de retwist, où vraiment ça ne fonctionne pas du tout. Il y a quand même des fulgurances où je ne sais pas si moi je l'ai pris personnellement en ayant vécu des moments de transe comme ça, surtout ça, dès les premières minutes, ces masses de gens, et donc là je suis m'inscrit en faux avec ce que tu racontes sur le fait que les gens sont totalement perchés parce que c'est le matin et c'est au matin que tu es complètement loin. Il y a quand même un effet de masse qui joue vachement avec la musique de Kang Lingrei, qui est quand même assez monumentale. Donc il y a vraiment cette première partie des 10 premières minutes, de retrouver cet engouement de masse et de joie populaire. Il y a quand même un truc qui se passe. Moi je me suis fait saisir par le truc, je me dis la vache, comment c'est mis en scène, est-ce qu'il a vraiment juste mis un fond sonore et où il a juste capté les moments au fin fond du désert. Donc il y a vraiment quand même quelque chose qui se passe avec cette foule, cette masse qui se crée. Mais par contre, voilà, très vite, c'est là que je n'allais pas pouvoir trop parler positivement du film. On est face à des toughers, et les toughers, on ne va pas leur demander d'être des acteurs. Et en fait, ça joue très très mal parce que très vite, on leur demande de s'inscrire.
T'es supposé prendre le.
Ah oui, je peux vraiment.
Défendre le film.
Le côté positif, c'est vraiment peut-être juste les 10 premières minutes, l'engouement avant même que le camion se mette en marche et que le générique et le film s'affiche en tant que tel. Je crois que ça le film.
Donc le film démarre, quoi.
Arrive au bout de 15 minutes. Et en fait, voilà, les 15 premières minutes sont vraiment complètement, de mon avis, complètement dingues. C'est pour ça qu'on s'est fait saisir et que la critique et à Cannes, on s'est fait saisir.
Attends, parce que je vais divulgacher, parce qu'on parle de l'intro. Moi, j'ai divulgaché et je considère que le plan final sur le train, en fait, m'a vraiment plu, en fait, m'a intéressé. C'est-à-dire, d'un coup, de se dire, tiens, on a affaire, en fait, à un périple, voilà, de migrants, en fait, de gens qui ont souffert. On s'est intéressé à eux, mais sans montrer tu vois ce que je veux dire. C'est ce périple et voilà tous les drames. Et du coup, on a affaire plutôt finalement un objet métaphorique et symbolique.
Moi je me trompe peut-être, mais je crois que sur la signification de ce train, en fait, moi je pensais aussi que c'était un train de migrants. Je me dis, tiens, ils refinissent par rejoindre les exilés, etc., etc. Alors en fait, apparemment, c'est un train qui circule en Mauritanie, en fait, qui est assez et qui est un train classique, en fait. Et donc il y a des gens sur le train, en fait, quoi. C'est pas du tout un truc.
Ouais, mais le film est présenté comme étant au bord d'une, enfin dans un pays au bord de la guerre.
C'est la Mauritanie, donc ça veut dire qu'il y a
de la guerre.
Non, mais je sais, mais
ça c'est ultra poussif. Les points de vue et à chaque fois les petits points France Info où la Mauritanie se casse la gueule, en fait.
Moi je l'ai vu comme ça, ça m'a ramené plutôt un objet de science-fiction, de film d'anticipation.
Ça en est un, de toute façon.
De film d'anticipation.
Clairement dit, c'est dans le texte. Hein,
voilà, c'est ça.
C'est un film de science-fiction.
Voilà. Ça me ramène à ça, en fait, et ça me ramène aussi au fait que le film et les actions, notamment dans le champ, toute la deuxième partie, hein, notamment le champ de mine, ramène à du cinéma de genre pur, en fait, quoi.
Ouais. Voilà, pour pouvoir juste dire, moi, le point de fulgurance que j'ai aimé à la moitié du film, c'est quand elle est dans la caravane, une des personnages principaux parle des enceintes qu'elle répare. Et donc là, on est vraiment sur une part complètement documentaire où j'ai l'impression où elle répare des enceintes et que chaque enceinte, d'après elle, a vraiment une identité et un langage et une parole. Et donc là, j'ai vraiment l'impression, en aimant le gros son, que d'avoir affaire à un père, hein, ou à quelqu'un que je connais, quoi. Donc vraiment cette parole là quand elle me révèle qu'elle remet en vie des enceintes, ce moment là moi je le prends et je dis, oh, ok, là il a réussi à capter un moment de fulgurance complètement fou sur le milieu de la teuf et le milieu du boom boom, où elle parle aux enceintes qui ont une personnalité. Et bon, ça, c'était hyper fort.
Fallait me dire, j'aurais mis Cyrade dans la troisième émission de Flop et pas maintenant. Je pensais que des gens l'avaient en tête. Bon, Cyrade, c'est fait. Thomas, s'il te plaît, pour qu'on enchaîne, toi, tu voulais évoquer Sinners de Ryan Coogler,
que j'ai pas mis dans mon top, mais qui est un film qui est pétri de défauts, mais qui est néanmoins bourré de qualité. Donc, Ryan Coogler, on le connaît parce que c'est le metteur en scène du premier Cri, donc le spin-off de Rocky et un des Black Panthers, ou des deux Black Panthers peut-être. Donc voilà, qui est plutôt un genre de petit faiseur pas très habile dans le cadre du blockbuster.
Qui n'a pas eu de mal à bosser avec Marvel.
Ou dans le cadre de franchise en tout cas. Et là, depuis son premier film, c'est son premier scénario original avec toujours son guy, ce gros beefsteak de Michael B. Jordan. Et ce qui maintenant, dans le cadre du film hollywoodien, est un genre de film du milieu parce qu'il n'a coûté que 90 millions de dollars et qui a été un genre de sleeper, en tout cas un des gros succès surprise de cette année dans le box-office américain, qui est donc un film original, qui n'est pas adapté d'une franchise et compagnie. Et il y a un film qui se passe dans un cadre historique, qui est à la fois un film fantastique, un film d'action, et surtout le cœur du film qui est un film...
Le blues.
Voilà, sur le blues. Ah, le blues. Muddy Waters, peut-être le meilleur pour moi, avec sa guitare, là. Et donc voilà, vraiment un film sur les musiques afro-américaines et afro-descendantes, mais aussi les autres racines de la construction du melting pot américain, notamment l'Irlande et puis la Chine. Et donc il y a un film qui est assez mal foutu parce que le film est trop long et assez déséquilibré.
Trop de personnages.
Mais qui pourtant contient étonnamment en son sein toute une partie centrale qui est la meilleure du film, alors que souvent c'est plutôt là que ça pêche, souvent c'est une bonne entame ou une bonne mise en place, un gros ventre mou, puis un final qui explose tout. Alors que là, au contraire, je trouve que le véritable projet du film est là où il est le plus intéressant, il est le plus incarné par des personnages, par des acteurs et par même son projet de mise en scène. C'est dans cette partie centrale où on est donc dans le joint de musique que les deux personnages principaux créent. Donc, il y a deux frères jumeaux joués par Michael B. Jordan dans un pur ego trip.
Ce qui ne sert à rien.
Ah non, ce qui ne sert absolument à rien. Mais où c'est là vraiment que je trouve que est le cœur du film, où en termes de propos, en termes de mise en scène, il se rehausse et il devient vraiment intéressant.
Il y a une séquence notamment de voyage dans le temps.
C'est ça,
mais qui est super.
Ouais, un plan séquence trafiqué de musique où un jeune personnage commence un morceau de blues. Et en fait, on va traverser une certaine histoire de la musique afro-américaine.
Oui, et puis qui rejoint quand même ce truc un peu mythique aussi avec le blues, qui est l'histoire de Robert Johnson, avec qui croise le diable à un carrefour, etc.
Au crossroads.
Voilà, exactement. Où il y a quand même toute cette mystique, en fait.
Il y a cette mythologie, de toute façon, de la musique afro-américaine.
Qu'à voir avec la musique du diable, justement, et la musique du diable, parce qu'il y a aussi la ségrégation, etc. Et moi qui suis très, très amateur de musique afro-américaine dans son ensemble, j'ai trouvé que cette séquence-là, moi, j'ai été vraiment surpris. Hein.
C'est une des plus belles scènes. Voilà.
Moi, je m'attendais pas du tout à ce que le film dérive dans ce coin-là. Moi et quand j'ai vu la scène, j'ai dit ah putain, voilà un mec qui a compris ce que c'est que comment représenter, synthétiser quelque part de manière symbolique, visuel, et poétique, de manière poétique ce que c'est que la musique afro-américaine, quoi. Et j'ai beaucoup apprécié cette scène-là parce que je me suis dit tiens, là le mec me...
il se passe quelque chose.
Oui,
j'ai senti surtout
c'est dans Sinners, en fait, moi ce qui m'a plu, c'est que j'ai senti que je trouve que c'est un film qui est naïf, mais qui est hyper sincère.
Qui est sincère, c'est
jusque dans ses erreurs, en fait. Et moi, je peux pas.
Parce qu'il veut trop en faire, mais en même temps, il est maladroit. Le côté fantastique, c'est intéressant, mais ça fonctionne pas toujours. Le côté film d'action, c'est un peu plus lambda, et ça retombe dans les travers.
Mais par contre, le côté musical, tu sens qu'il se fait plaisir. Enfin, voilà. Et je trouve que
ça donne envie de réécouter un paquet de blues.
La musique est super. C'est une super.
Non, il y a pas Pididi dans le film.
Non, il y a pas Pididi. Mais non, et puis surtout le truc, c'est qu'il y a moi je trouve que dans un monde hollywoodien qui est quand même dirigé par une espèce de cynisme, où on passe son temps à cocher des cases.
Parce que le film est quand même assez cul, il est assez violent, il y a
de
la bave, hein.
Ça fume
non,
des
non, non, mais même ça, oui, enfin, ça j'ai revu le
ça
film
se bave dans la bouche,
matin, voilà, mais c'est en fait c'est hallucinant en fait à quel point c'est sexué, quoi. Et en plus pas sur un territoire en plus qu'on connaît, quoi, vraiment c'est t'as vraiment même la nana de Michael B. Jordan avec sa corpulence et tout ça, ça c'est tu le vois pas,
qui est pas du tout encore Hollywood.
Le côté très charnel et sexuel, et puis des sucs et tout ça, tu dis non, fluides, tu vois pas ça, tu vois pas ça, quoi. C'est très étonnant. C'est étonnant à quel point le film peut être immensément raté sur les trucs. Enfin, c'est
genre, les scènes d'action
pour moi,
qui
c'est vraiment
rien,
une des plus belles réussites.
La partie
cinéma,
action, c'est la moins réussie du film.
Et c'est vraiment un gros ratage sur plein de points. Ouais. Si tu dis, c'est très étonnant, quoi.
Et la scène de danse irlandaise est super aussi, parce que là aussi, tu vois, ce discours justement sur la ségrégation, où tu te dis, ah ok, d'accord, c'est balisé, ça y est, ça coche les cases.
Non,
tac,
mais c'est
tac,
des
tac,
systèmes.
Et il arrive
de domination qui se reproduisent.
Voilà, exactement. Il arrive à être suffisamment malin pour universaliser le propos, pour pas dire des gentils noirs, des méchants blancs, mais dire il y a ça et il y a aussi d'autres trucs, d'autres systèmes de domination et notamment de la domination de classe, ce qui n'est pas un truc qui est si courant que ça dans le cinéma américain quand même.
Ce qui n'est pas courant et il y a plein, il y a un vrai
discours. Dans le cinéma hollywoodien, on va dire, dans le cinéma hollywoodien.
Moi je pense qu'il y a une grosse réussite du film, même si elle n'est pas aboutie parce qu'il a du mal à aller au bout de ses idées, mais c'est aussi cette relecture du mythe du vampirisme qui est hyper intéressante parce qu'au final, dans le film, c'est que les vampires, tu te demandes à un certain point s'ils n'ont pas raison, si tu ne te dis pas, mais venez intégrer notre communauté, nous on va aller faire la fête, nous allons faire qu'un seul corps, quoi. Et ils sont que en train de lutter sur le dire, bah non, on va pas faire qu'un seul corps là-dedans. C'est, il y a un truc de sur une relecture communautaire qui peut être hyper intéressante
là-dessus. Au niveau culturel, l'idée qu'on se nourrit tout l'idée qu'on vampirise toujours la culture de quelqu'un d'autre en fait, quoi. Et que voilà, il y a espèce de
l'appropriation culturelle.
Il y a toute une espèce de métaphore autour de l'appropriation culturelle, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est un film qui coche toutes les cases. Mais qu'il le fait de manière finalement plutôt intelligente par rapport à ce que moi je pouvais attendre d'un film comme celui-là.
Ouais, moi
je pense que c'est un effet justement un peu inverse de Sirat. C'est-à-dire que Sirat, pour moi, c'est le problème de Sirat, c'est que c'est un film qui a été un peu vendu. C'est-à-dire qu'on te le vend comme attention, vous allez voir, c'est le grand choc. Oui. Il faut regarder ce film-là. Et donc du coup, tu vois le film et tu fais ouais, ok, ça va quoi. Mais c'est pas forcément un film défini. Alors que là, tu vois, c'est un film où j'ai été le voir. Moi, j'étais le voir sur tes conseils, hein, Thomas, parce que tu m'as dit, bon.
Le blues. Allez,
je me dis, au pire, ça sera un divertissement, quoi. Et je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant, en fait.
Et le truc,
c'est
que c'est quand même un film qui
très bon.
Est bourré de défauts, mais dont tu retiens que les trucs positifs principalement. Ouais.
Parce qu'il y a cette sincérité. Parce qu'il y a cette
sincérité. T'es déçu quand finalement arrive la scène d'action après la séquence dans le.
Ouais,
mais remets-moi de la musique.
Tu voulais revenir dans le club et les
mais
voir.
Mais à le revoir, c'est sûr
que. Pardon, toute l'idée que le vampire, il faut faire rentrer le vampire. Ce truc du franchissement du seuil, dans le mythe du vampirisme. Et cette idée de. Il y a des endroits où tu peux rentrer, des endroits où tu peux pas rentrer dans le sud des États-Unis parce que voilà, si t'es noir, il y a la ségrégation. Tu vois, là, je me dis, ah tiens, mais ça, j'avais jamais vu ça. Comme. J'avais jamais vu ces parallèles-là, en fait, entre le vampire et la ségrégation, en fait. Et le fait d'être. Outcast et tout. Et pourtant, c'est évident, quelque part. C'est-à-dire que tu dis, oui, c'est assez évident, en fait, que ça mène à ça, parce que le mythe du vampirisme, c'est souvent le mythe de d'une marginalité subie, etc., etc., de l'ambiguïté sexuelle, etc. Enfin, tu peux mettre plein de trucs dans le mythe du vampire, quoi. Et là, je trouve que ça colle plutôt pas mal, quoi.
Non, puis c'est pas parce que tu vois, c'est quand même un exemple qui maintenant devient rare, mais qui est un peu rassurant de voir que ce genre de truc, même s'il est imparfait, peut encore réussir à être produit, mais aussi parce qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient aussi quand même acquis un certain pouvoir, Michael B. Jordan et Ryan Coogler, avec leur film précédent qui était des gros trucs de studio ultra balisés.
Mais je pense qu'après, le film ne ressemble pas du tout à un blockbuster, quoi. Enfin, c'est très étonnant. C'est pour ça que c'est d'autant plus une bonne nouvelle, hein, parce que franchement, le film, il est très étonnant dans sa construction. Il n'est pas abouti, hein. Je dirais pas qu'il invente une forme qui pourrait faire un classique et puis être reproduit derrière, parce que non, il n'est pas vraiment abouti. Mais c'est très étonnant que c'est fonctionné à ce point-là. Mais c'est vraiment parce que ça travaille, je pense, des trucs qui sont hyper importants. Et je pense que ça les travaille. Pas assez loin,
ça,
je pense.
Pour le
mais
coup, je pense que c'est un film assez marqueur d'une époque aussi.
Et encore une fois, contrairement à Sirat et contrairement à d'autres films que moi j'ai pu voir ces dernières années où j'en ai un peu marre de voir des films en fait qui sont des séries B qui prétendent à être plus importants, qui disent non, mais la série B c'est un peu sale. Donc nous, on va emprunter des trucs, on va vampiriser justement la série B, mais nous, on va faire du film d'auteur à 24, vous voyez. Et ça m'énerve.
Bakuroou.
Voilà, et ça m'énerve. Bakuroou est plus.
Perdez pas de temps.
C'est juste parce que t'es raciste.
Mais non, mais là par contre, je trouve que c'est ça qui truc, c'est qu'effectivement, c'est un blockbuster, et pourtant, c'est quelque part une série B qui n'a pas honte d'être une série B jusque dans ses défauts. Et ça, quelque part, il y a aussi ça que moi j'ai bien aimé, c'est que je me suis dit, au moins, ok, c'est un peu foutraque, c'est un peu mal foutu à certains moments, comme une série B en fait, alors sauf que c'est une série B à 90 millions.
Ouais,
et il y a pas les gars.
Il n'y a absolument rien qui a un rapport à une série B dans ce film.
On ne repart pas sur ce débat-là, je vous propose parce qu'il est. On a une série de films. Jules Topok, donc après Sinners de Ryan Coogler, toi tu évoques ton film préféré de l'année, à savoir One Battle After Another de Paul Thomas Anderson.
Bah, c'est pas un film préféré total. C'est vraiment, je pense qu'on a un peu parlé aussi des fulgurances qu'on avait dans différents films qu'on a vécu cette année. Moi, j'ai vécu une fulgurance d'une demi-heure sur, sur le Paul Thomas Anderson. Et en le revoyant et en découpant finalement vraiment juste au time code et nous dire à quel moment je commence vraiment à me dire ouais, c'est comme ça, c'est vraiment du cinéma que j'adore avoir et me lancer. Et ben je me suis rendu compte que c'était millimétré comme un chronomètre, et donc là c'était pour ça que c'est un peu ambivalent, où en fait quand on regarde à nouveau le One Battle à la 30e minute jusqu'à l'heure, c'est le moment où Leonardo DiCaprio se rend compte que sa fille vient d'être kidnappée et il est dans sa caravane, il est en train de prendre une grosse...
Non, de 1 heure à 1 heure et demie.
Et où là, c'est la fuite en avant, où il part dans son tunnel, jusqu'au moment où il se fait taser. Alors, pardon, on l'a tous vu. Et cette séquence est superbe, où vraiment le choc te chope quand il se fait taser et que ça s'arrête. Mais au niveau time code, il y a 30 minutes complètement folle et c'est timé. Donc je me dis, d'un côté il y a un côté mécanique parfait où je me dis ben, il a réussi à amener tellement de choses et tellement de au niveau musical et au niveau du rythme et au niveau de ce que ça amène de comédie, de personnages qui arrivent avec Benicio del Toro. C'est une demi-heure complètement folle dans cette année sur 2 heures et demie. Après voilà, j'ai plein de choses à dire sur un gros problème avec Sean Penn, son personnage, le fait que ça marche pas du tout avec ce personnage féminin de l'amoureuse de DiCaprio. La première partie, voilà, ça marche pas du tout d'introduction pour moi de personnage. Il y a, il y a une déconnexion complète. On se dit, là ça va, c'est too much, Paul. Paul, tu vas trop loin. Tout de suite, t'es à fond, donc ralenti. Mais par contre, je me pose la question, est-ce que c'est une intelligence artificielle qui a fait le montage? Parce que vraiment, à la minute près, il y a 30 minutes chrono d'écriture scénaristique où le mec est en train de... Ben, je vois le mec finalement, quand je le vis, je me dis c'est génial, putain, quel plaisir. Et au-delà du fait aussi de la course-poursuite avec la route qui s'enchaîne et qui s'enfile, j'ai jamais vu ça et c'est parfait. J'ai
jamais vu une poursuite filmée comme ça. Donc.
Mais cette demi-heure d'excitation et de voir un DiCaprio qui est quand même une merveille. Déjà, j'ai eu l'impression.
Big Lebowski, hein,
j'ai eu l'impression de voir un DiCaprio.
Non, ça fait mal de le dire parce que moi j'ai un peu daubé sur DiCaprio.
Mais j'ai eu l'impression de voir DiCaprio.
Super fort. Ouais,
tu sais la séquence dans Once Upon a Time où il est juste en roue libre dans sa caravane et qui s'énerve tout seul. Et ben moi j'ai eu l'impression de le voir là pendant une demi-heure sur la séquence de poursuite où il est complètement
et
perché
et qui contraste avec Del Toro qui est hyper zen, qui est hyper
et donc je me dis, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle dans ce cerveau de Paul Thomas Anderson qui fait que mécaniquement quand il est en train d'écrire son scénario, il se dit voilà, tiens, je vais devoir mettre telle séquence là, telle séquence là, telle séquence là, comme un Disney pour une construction scénaristique. Mais par contre quand je le regarde sur les faits accomplis, la demi-heure est complètement tarée. Donc moi, je film de l'année peut-être, mais juste la demi-heure de c'était complètement. Là, je prends tous les films de l'année pour cette juste demi-heure qui m'a fait me
plus dire, que la plus que la course poursuite finale. Quoi, c'est le moment où il va.
C'est vraiment cette.
Ouais, c'est vrai. Alors j'ai plein de reproches à faire sur le film qui m'a pas particulièrement. Plus, alors que en effet tu peux prendre des moments, c'est-à-dire que c'est pas le film dans son intégralité ne va pas, mais par contre tu peux prendre différents moments en fait, en effet, comme la course poursuite, comme la chute, tout ça machin de DiCaprio, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que je garderai pour moi la prestation de l'année, c'est Benicio del Toro qui est exceptionnel. Il est
toujours formidable.
C'est vrai qu'il a il a joué dans plein de mauvais films sans doute, mais lui il a jamais été mauvais, je crois. Et en fait là en le revoyant comme ça, il a une classe exceptionnelle en fait.
Il a même joué dans Star Wars.
Et moi j'ai mis le Wes Anderson quand même dans mon top 10 parce que moi je trouve que dans The Phoenician Shim il est très bien, Benicio del Toro. Et c'est un Wes Anderson qui est très drôle.
J'ai mis dans la liste des films que je ne veux pas voir.
Alors que c'est un Wes Anderson qui est plutôt rigolo en plus. Moi j'ai bien rigolé.
J'ai un peu lâché l'affaire. Mais alors que la dernière fois je m'étais dit c'est tellement over the top là qu'il faudrait peut-être que je continue, mais j'ai pas vu celui-là.
On gardera ça pour l'émission flop. À moins que quelqu'un ait quelque chose d'important à rajouter sur le Paul Thomas Anderson dont tout le monde a parlé. Voilà. Tu voulais.
Moi je peux juste rajouter que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, j'en ai déjà parlé je pense à la radio, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu, qu'il m'était pas arrivé au cinéma un truc qui m'arrive pas si souvent, c'est le moment où t'as l'idée en même temps que le personnage. Dans la scène de poursuite finale, en fait, à force de voir les côtes, en fait, je me disais, mais je me dis, comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Donc, je cherchais et tout. Je me dis, mais si, mais en fait, le truc, c'est que tu t'arrêtes en haut d'une côte, tu piles, et comme le mec, il te voit pas parce qu'il est en bas de la côte, bah, il va te rentrer dedans, et c'est là que tu le baises, en fait. Et au moment où j'étais en train de penser ça, elle le fait dans le film, et là, j'ai dit, ah, mais ouais, mais moi, je suis carrément avec toi, ma fille. On a eu la même idée en même temps. Solidarité, personnage public.
Tu veux dire quand toi t'as une gamine de 16 ans, Erwan?
Non, mais j'étais contente qu'elle soit intelligente comme moi.
C'est
non,
bien.
C'est pas souvent hein, quand t'as ce truc où tu te dis, il y a tellement de fois dans des films où je me suis dit, ne faites pas ça. Mais pourquoi vous faites ça? Mais c'est idiot de
faire
ça.
N'allez pas dans la maison abandonnée.
Voilà, exactement. Mais prenez une lampe de torche avec des piles qui marchent, s'il vous plaît, quoi. Tu vois le nombre de fois où par exemple, moi je déteste dans les séries maintenant, je supporte plus ça, moi. Le fait que les personnages n'arrivent pas à se parler. Et j'ai vu des séries récemment où les mecs je suis taiseux et tout, mais dis-lui que t'as vu un fantôme, quoi. Je veux dire, c'est ta mère ou c'est ta fille, elle va te croire quand même, elle te connaît, enfin je veux dire, elle va te traiter de dingo, enfin je sais pas, moi je veux dire, si j'ai mon meilleur pote ou quelqu'un de ma famille qui me dit j'ai vu un fantôme, il m'est arrivé un truc surnaturel, je vais quand même l'écouter quand même, merde quoi, enfin je veux dire, dans la nature humaine c'est ce qu'on fait, quoi. Et tu vois, c'est suffisamment rare de trouver des personnages où t'es en phase avec eux, vraiment intellectuellement tu es en phase avec eux pendant un court instant. Ça c'est très bien, moi j'ai beaucoup aimé.
C'est bien que tu aies la parole, tu vas la garder puisque toi tu vas évoquer Eddington, ouais, de Ari Aster,
ouais.
J'ai
pas tout à fait le même ressenti.
Je prends la parole avant toi dans ce cas-là, pour dire que moi ça a été une très bonne surprise cette année, et parce que autour de moi je pense à Thomas qui est en train de lever les yeux au ciel comme un adolescent attardé, ou
j'ai pas levé les yeux au ciel, j'ai juste tapé mon index sur ma tête en disant hey, loco.
Ça a été une très bonne surprise après les boursouflures qu'il a pu commettre.
Après Midsommar, ouais.
Voilà. Boys Afraid, quand même, qui se terminait avec une bite géante qui donnait des coups de couille dans je sais plus quoi.
Dit comme ça, c'est vendeur quand même.
C'était le meilleur moment du film. Moi, j'ai
eu se termine dans un vagin géant.
J'ai eu l'impression, alors qu'on nous évoquait justement pour l'année, que ça soit avec Catherine Bigelow ou Paul Thomas Anderson, un film sur un film qui va parler des États-Unis, ce machin. Ce qui est pas le cas pour moi de Paul Thomas Anderson ni de Catherine Bigelow. Là, pour moi, Eddington, c'était le film qui évoquait les États-Unis, alors, en fait, cette année.
Oui, mais ça évoque aussi la confusion, en fait. C'est vraiment un film que j'ai vraiment ressenti ça. Alors,
c'est ça pour moi.
Je sais pas jusqu'à quel point c'est volontaire.
Paul Thomas Anderson aussi un peu hein, quand même.
Ouais, mais alors Paul Thomas Anderson, il y a ce côté quand même un peu maniaque qui fait que tu
il est hors sol pour moi.
C'est un peu plus comment dire, c'est plus du film d'anticipation en fait, Anderson. Ça se passe dans 20 ans. Voilà. Donc c'est un film qui prend aujourd'hui, qui prend des conséquences sur aujourd'hui, puis qui va développer son histoire. Alors que Eddington, c'est vraiment un film sur Ari Aster je sais pas quel âge il a, mais qui sait plus trop de qui n'arrive plus à se situer en fait entre la jeunesse et la vieillesse. En fait, il y a des moments en fait, c'est vraiment un film de vieux con.
Ouais, complètement.
Et alors il déjoue ça par d'autres trucs, mais tu sais pas si c'est cynique ou sincère. C'est très compliqué comme film.
Mais je l'ai vécu comme un film honnête, justement dans cette confusion. C'est-à-dire qu'à un moment il a aucune conviction, mais par contre il pense à une vérité, à comment rétablir une forme d'ordre ou de choses comme ça, et en même temps il y a aussi cette conviction intime, il me semble que les libertés et puis la tolérance sont importantes, et tout ça va se confronter à un moment. Oui, et tout va, explose en fait.
Parce qu'en fait, alors, le truc c'est que ça mélange. En fait, moi je pense que c'est un film qui est un petit peu l'exemple de qui trop embrasse mal étreint, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à force de vouloir parler de trop de trucs en même temps, c'est peut-être une série qu'il aurait dû faire. Tu vois, avec Eddington. Moi, j'aurais vu une série en une saison, tu vois, de 10 épisodes.
Ça aurait été trop beaucoup.
Oui, mais ça lui aurait permis de creuser un peu plus ses persos.
Le film, il a forcément un problème de construction scénaristique. Ah, pour moi, il est pas immédiatement agréable.
Dès que Pedro Pascal disparaît, ça devient vachement moins intéressant. Parce que ça repose quand même beaucoup sur la rivalité entre Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, je trouve, est un aspect intéressant.
Moi, je le mets quand même vachement en rapport avec One Battle After Another, parce que t'as quand même un côté où quand même les films essayent de s'emparer d'un fait politique, d'un conflit en tout cas qui étreint les États-Unis ou je sais pas quoi. Donc on pourrait se dire une bataille après l'autre. Il y a un côté, c'est beaucoup plus sur des bases classiques de l'extrême gauche contre la droite.
C'est plus clair en fait.
C'est plus clair. Mais sauf que
politiquement, ça me paraît, c'est plus clair. À le revoir, vachement plus intéressant sur ce que ça dit, parce que au final, on se rend compte, si tu creuses un peu, que ouais, voilà, il y a quand même un côté de l'apparat de l'extrême gauche, il y a un côté, il y a un goût sur.
Puis il y a un côté sauce park en moins fin. Bah, quelque part.
Dans Eddington, oui, mais dans Eddington, une bataille après l'autre, il y a quand même ce truc où ça parle vraiment du sort de folklore d'extrême gauche. Donc aussi contre l'extrême gauche que sur le folklore d'extrême droite. Enfin, il y a un côté qui ça se base, que ça ne critique que l'image que veulent rendre ces trucs-là. Eddington, en tout cas, effectivement, il y a un côté South Park, il y a un côté Cohen, il y a un côté. Pas Simpson, mais voilà, il y a ce côté-là qui veut être un peu drôle avec des personnes qui sont jamais à la hauteur des archétypes qu'ils veulent endosser. Ça, c'est encore un point commun avec une bataille après l'autre où tu dis, bah ouais, le personnage de. C'est pour ça qu'on peut comparer le personnage de Caprio avec Big Lebowski. C'est quelqu'un qui est un mec d'extrême gauche et qui est carrément pas c'est du tout pas comparé, à la hauteur puisque de l'archétype.
Le modèle de Jeffrey Lebowski est remercié dans le générique de fin du PTA.
Oui.
Donc c'est ça, là pour le coup, l'influence est totalement claire.
Ça m'étonne pas. De toute façon, c'est aussi
totalement limpide.
Et en même temps, Big Lebowski, il y avait aussi ce truc-là, c'est que ça essaye de dresser un portrait politique à un moment d'un truc où tu dis putain, il y a une sorte, enfin c'est le côté Pynchon, moi que j'ai jamais lu, hein, mais avec plein d'idéologies différentes qui se confrontent, et puis il y a aucun sens qui se dégage de tout ça. Moi, en tout cas, ça me paraît. Enfin, j'ai trouvé que le cinéma américain, en tout cas, avait réussi un petit peu à capter ce truc-là via Eddington, via une bataille après l'autre. Oui. Ceci dit, Eddington. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire un film immédiatement enthousiasmant avec ce sujet-là aujourd'hui. J'ai l'impression que ça soit une bataille après l'autre ou celui-là, et particulièrement celui-là, c'est vraiment le film qu'on mérite, quoi. Eddington, c'est presque le film qu'on mérite, c'est que tu dis, bah ouais, c'est le truc qui est. Qui part dans tous les sens, qui est à la fois centripète, centrifuge, qui est à la fois concentré sur lui-même, qui sait tout et qui s'éloigne de tous les côtés. Tu ne sais pas trop.
Je suis d'accord, mais moi je le vois de manière plutôt positive, c'est-à-dire qu'en effet, je suis d'accord avec toi, mais ça représente totalement en fait non seulement les États-Unis a priori d'aujourd'hui, mais même de façon générale le monde occidental dans lequel on évolue. Ouais. Et le film,
mais avec un peu de complaisance, moi je trouve quand même.
Alors. Je suis.
Par exemple, je suis pas sûr.
C'est l'Occident, ça va globalement.
Pour moi, un des problèmes du film, c'est que c'est au bout d'un moment, ça devient un festival Joaquin Phoenix. Et Joaquin Phoenix, moi, je trouve que c'est un acteur qui, un peu comme Leonardo DiCaprio d'ailleurs, est un acteur qui a besoin d'être vraiment d'être dirigé de manière hyper précise pour qu'il soit bon vraiment.
Oui, mais alors
en tout cas que moi je le trouve bon. Ouais, et là je trouve que là il retombe un peu dans ces travers de Joaquin Phoenix, justement de The Master.
Oui, mais alors
un film qui moi je m'avais horrifié quoi de PTA justement. Donc voilà, et je trouve qu'il dès que Pedro Pascal disparaît, parce que Pedro Pascal lui est très bon.
Non, mais justement.
Et je trouve que dès qu'il disparaît, le film perd quelque chose.
On garde Joaquin Phoenix, qui n'est pas ni un personnage ni un acteur agréable. Et je pense qu'il est très bien casté justement pour ce film-là. Le personnage n'est pas.
Il est bon, hein.
Le personnage n'est pas agréable. T'as pas une fois et y compris une fois que le personnage de Pedro Pascal disparaît, c'est quand on se retrouve seul avec ce personnage qui non seulement n'était pas agréable parce que l'acteur en fait voilà, moi c'est pas un type que je tiens dans mon cœur en plus, mais en plus de ça, il a fait quelque chose de moralement abominable, et le personnage vraiment est incontestablement détestable en fait dans la deuxième partie. Le fait est que j'ai retrouvé moi quelque chose qui me plaisait dans les meilleurs films des frères Cohen. Tu citais les frères Cohen tout à l'heure. C'est la responsabilité du personnage. C'est un truc que t'as dans tous les films des frères Cohen, que ce soit dans Big Lebowski ou dans leur meilleur Inside Llewyn Davis. Le personnage est constamment responsable de ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il peut bien se plaindre de tout ce qui se passe dans le monde.
Et il est l'artisan de son propre malheur.
Exactement. Et c'est important.
C'est des fables morales à chaque fois.
Dans le cinéma américain, c'est quelque chose que tu retrouves de moins en moins quand même, y compris dans les films des frères Cohen qu'ils ont fait après Inside Llewyn Davis, et ils n'ont rien fait de bien, où tu perdais ça, cette responsabilité du personnage que je retrouve moi de moins en moins dans le cinéma. La responsabilité du personnage, on la ramène de plus en plus à des événements extérieurs ou à des événements passés, mais pas à des choix que les personnages vont faire. Alors, et là, je le retrouvais dans Eddington vraiment, et c'est important pour évoquer le monde contemporain aussi, en fait. C'est des choix individuels, et on est responsable de ces choix qu'on fait, en fait.
Oui, alors oui, oui, non, mais oui, moi je te, oui, il n'y a pas de souci. Hein, j'ai rien à dire contre ça. Non, moi c'est pas ça qui, mais le comment dire, finalement le destin du héros, le fait qu'il soit ambigu, moi ça me dérange pas en tant que tel. Moi ce qui m'a un peu saoulé en fait dans ce film là, c'est que d'une part il y avait à certains moments ce côté vieux con dont je savais pas trop bien si c'était conscient ou pas conscient, ou peut-être que j'avais envie de voir autre chose, tu vois, à ce moment-là, peut-être que j'avais pas envie de cette ambiguïté-là, j'en sais rien. Et puis il y a le fait qu'à mon avis, il essaye de dire trop de trucs. Par exemple, il y a certains arcs narratifs secondaires qui, moi, je trouve fonctionnent plutôt bien. Par exemple, tout ce qui se passe avec le flic afro-américain. Je trouve que toute cette partie-là du film et ce qui lui arrive à lui, ou à qui il arrive un truc, mais horriblement, enfin c'est horrible ce qui lui arrive à lui, c'est vraiment d'une cruauté scénaristique assez dingue quand même, quoi. Et je trouve que ça c'est plutôt bien réussi, quoi. C'est plutôt bien réussi de montrer comment est-ce que ces gens qui se prétendent, comment des gens qui aussi vont se prétendre progressistes vont finir par se comporter de manière conservatrice parce que c'est confortable, etc. Et là, je trouve que tu vois tout cet aspect-là,
mais c'est pas cynique, je trouve.
Non,
pas
non,
ça
j'ai
cynique,
pas trouvé que c'était cynique. Je trouve que justement cette partie-là est plutôt réussie parce qu'elle est assez fataliste finalement et elle est assez,
assez
dark.
C'est peu, mais c'est et... parce que c'est un personnage secondaire, c'est ça qui est intéressant.
Mais voilà,
c'est qu'en fait le personnage principal dans une fiction de 2025, il peut pas être positif en fait.
Non.
Et Gabriel, il est pas positif, quoi. Et Joaquin Phoenix, il est pas positif.
Non,
moi,
je
pourrais rapprocher ça d'un autre film de Oui, je sais pas si vous avez vu ça, le Oui de Nadav Lapid, qui est pareil, un autre film qui pourrait vraiment essayer d'épouser un petit peu tous les trucs un peu le marasme idéologique ambiant. Pareil, le personnage, il est pas positif. C'est dans les personnages secondaires autour que tu vas avoir des arcs narratifs qui pourraient être non pas intéressants, mais conformes, en tout cas avec une sorte de morale que nous, on pourrait avoir. Mais sinon, le personnage positif, il est juste dans le cœur de la tourmente.
Tu vois, justement, pour moi, le déséquilibre, il est là, c'est que la critique sociale ou la satire sociale, en fait, dans Eddington, fonctionne mieux, je trouve, vis-à-vis des personnages secondaires que vis-à-vis du personnage principal, qui n'est pas le porteur véritablement de cette satire-là, quoi. Ce qui est un choix assez surprenant. Peut-être que c'est juste que je ne m'y attendais pas. Et que moi, je m'attends à ce que ça soit le destin du personnage principal qui soit finalement le cœur de la satire, et qu'en fait le reste, ça soit des, tu vois, un petit peu comme, je sais pas moi, comment ça s'appelle, Network, quoi. Voilà.
Messieurs, si vous voulez bien, parce que
mais oui, on va peut-être,
pour
oui,
terminer cette émission, il nous reste une dizaine de minutes et on pourra revenir si vous voulez sur des problématiques de. Mais pour terminer l'émission, on voulait évoquer quand même, donc c'est à ton tour, Antonin, le rire et le couteau, qui est ton top de l'année, et que autour de la table il peut y avoir des, donc voilà,
un film woke,
c'est super,
on peut le dire.
Tu l'avais évoqué déjà dans l'émission quand même.
Oui, j'en ai
là
déjà,
ouais. Quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il en reste?
Non, il en reste plein d'images et tout ça. Moi, ça reste mon coup de cœur. J'ai pas réussi à le revoir parce que Los Angeles ne fonctionne pas sur ce film là donc j'ai pas réussi à le revoir, mais voilà, ça reste mon coup de cœur de l'année. Après, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Le film ressort en version longue en février.
Oui, il y a une version longue, pour ceux qui n'auraient pas écouté cette émission-là, c'est un film donc portugais et qui se passe en Guinée-Bissau et qui est une sorte d'aventure de, on va dire, pour le vendre, ça serait un thriller paranoïaque d'enquête écolo d'un émissaire
néocolonial,
dans une ancienne colonie. Et sauf qu'évidemment le film n'obéit pas du tout à ce programme-là, et tout en y obéissant un petit peu, mais le film ne fait que retravailler le programme de ce type-là qui vient là avec sa bonne volonté d'homme de gauche, de petit blanc, et très conscient, et qui va se heurter à cette sorte d'impossibilité, et ça ne fait que de se confronter le moi profond avec les représentations que les gens peuvent avoir. Ça, c'est un film passionnant,
c'est
d'une sensualité
pas qui
folle,
se perd, mais qui en fait entre dans
qui à mon avis se découvre au contraire,
qui entre dans les milieux queer de Guinée-Bissau, et que toute la faune, toutes les ambiguïtés et tous les différents personnages.
Et pas que le milieu queer, parce qu'il y a ça.
Pas que le milieu queer.
Il y a effectivement aussi les milieux prolos, mais particulièrement les milieux prolos occidentaux, des ouvriers portugais qui viennent faire construire des usines ou je sais plus quoi, des autoroutes.
Et alors, 3h30, c'est-à-dire qu'on est dans la chronique, on est dans le film.
Oui, c'est de la chronique. C'est de l'ordre de la chronique. C'est vraiment. Après, moi, je me disais, c'est Tintin un peu, parce qu'on a. on a affaire à un peu un personnage qui est là, qui est pas trop valable pour le coup, il est pas trop charismatique,
qui a pas de passé.
Pas hyper actif, pas de passé, qui arrive là, on sent bien que c'est un émissaire du bien, mais sauf que voilà, c'est il arrive dans les endroits où il est pas, où on va lui renvoyer à sa nature de bah oui, c'est un petit blanc qui déboule là-dedans et progressiste, et ça interroge enfin vraiment hyper bien le caractère néocolonial de qui que ce soit. Mais voilà, ça le fait. Après, ça, c'est le discours un peu intellectuel qu'on peut poser là-dessus, mais c'est surtout un film où tout est sublimement bien incarné, quoi. Enfin, les scènes, on parle beaucoup, Charmel. Les scènes qui reviennent beaucoup, c'est effectivement toutes ces scènes dans la scène queer, et notamment, il y a une scène de cul absolument incroyable, et toutes les scènes dans des boîtes
Qu'est-ce
de nuit qui sont
folles. Qu'est-ce qui fait que ces scènes de cul incroyables?
Mais t'as une scène dans...
Là, ça m'intéresse.
On voit des... parce qu'on voit des...
On parlait de scènes de course-poursuite, en fait, pour le Paul Thomas Anderson, tu vois, qui voilà, et ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui fait que ça devient une scène de sexe incroyable.
Parce qu'on y croit.
Déjà, on y croit.
On croit
déjà,
qu'il se passe un truc entre les trois acteurs qu'on voit à l'écran, quoi.
Trois ?
Ah oui.
Oui, c'est beaucoup.
Ah bah...
c'est très beaucoup. On peut pas spoiler.
Ça fait quand même quatre couilles, hein.
Non. Non, mais c'est une scène qui est, enfin, ouais, qui est incroyable.
Trois monsieur ?
Non.
Deux monsieur et une dame. Deux hommes et une dame.
Elle est d'accord ?
Oui, oui.
Ok.
Mais tout le monde est d'accord, hein, tout le monde s'amuse. Hein.
Tout le monde, okay,
s'amuse. D'accord. Si les gens sont consentants, c'est bien.
Et c'est super. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, on parle beaucoup moins, on commande beaucoup, vachement moins les scènes avec tous les prolos de
qui sont ce qu'on voit leur couille.
Non.
Mais ça, c'est dingo, où ils sont en train de boire de l'alcool de je sais pas quoi et en train de
déprimer.
Des discours de vieux fachos de base ou quelque part, mais en même temps, ils sont hyper sympas.
Il y a pas besoin d'aller en Guinée-Bissau pour voir ça. Hein.
Ouais.
Bah surtout, on a l'impression qu'ils sont en prison, en fait.
Ouais.
On a l'impression de passer dans une espèce de film de prison à ciel ouvert, ouais, en fait, avec des personnages qui sortent pas et qui se sentent menacés par tout ce qui est à l'extérieur.
T'as l'impression que
quoi.
T'es dans Alien 3, enfin, genre des trucs avec des mecs qui sont exilés dans une autre galaxie en train de faire de... C'est incroyable.
Non, mais moi je sais que c'est un film que j'ai vu un peu, alors que j'ai vu un petit peu parce que je vous ai entendu en dire du bien, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire confiance aux collègues. Mais non, mais je. Voilà,
on espère que les auditeurs vont faire aussi.
Mais
hein, c'est
voilà, non, mais justement, il faut faire confiance.
En sachant, comme l'a dit faites Thomas, que le film va ressortir en version longue.
Exactement, faites comme moi. Et effectivement, moi, c'est un film où je me suis dit, 3h30, pff, oh là là. Je suis
en portugais.
Voilà, en portugais, donc j'ai
rendu. En français.
Sur la Guinée. Et soudainement, je me suis déjà rendu compte que déjà la Guinée-Bissau, j'y connaissais rien. Donc en fait, j'ai découvert plein de trucs.
À part Bissau de la Bissau, bien sûr.
Voilà. Ouais, mais voilà, mais c'est vrai que la Guinée-Bissau, effectivement, terra incognita. Donc ça a été aussi l'occasion de découvrir.
De voyager un peu, quoi.
Puis de découvrir des questions géopolitiques dans un pays où, qui te dit rien du tout, quoi, tu vois. Et moi, j'ai beaucoup aimé, effectivement, justement, ce truc avec ces mecs qui sont ces petits blancs qui viennent avec les meilleures intentions du monde et qui sont pas reçus dans les villages comme ils estiment devoir être reçus, quoi. C'est-à-dire avec des Africains qui viendraient, tout sourire dehors, les remercier éternellement d'avoir creusé un puits, quoi.
Non, et en fait, d'autant que c'est des mecs qui viennent installer des shots sèches, quoi.
Ouais, mais voilà. Et en fait,
j'ai du mal à suivre.
Et il y a une espèce de différentiel, effectivement, entre l'importance que se donnent les gens. Et justement, c'est aussi un film, justement, moi, d'un type, en fait, qui apprend à une certaine forme de modestie, en fait. C'est-à-dire, et pas une modestie par je te donne des leçons, mais une modestie aussi par, justement, par le sexe, par la découverte d'autres univers que le sien, et par le fait de finalement de se fusionner, en fait. C'est-à-dire que c'est lui qui fusionne, en fait, avec le pays, en fait. Tu vois, et je trouve que cette idée de fusion, moi, je la trouve plutôt intéressante, le fait parce que ça
d'assimilation,
fait... ouais, plus ouais, parce que ça se fait pas de justement avec des marqueurs dramatiques tellement importants, finalement ça se fait vraiment justement sur la longue, et c'est pour ça qu'il faut que le film soit long, c'est parce qu'il faut le temps que ça infuse, en fait, ouais. Enfin, la vraie espèce d'idée que voilà, que ça infuse, en fait, qu'ils sont,
ouais, je pense, ouais, t'as un côté mélange. Film univers, hein, dans ouais. Le film, hein, où tu es dans un univers, t'es projeté dans un truc
Et moi, j'ai vraiment trouvé ça, ouais, moi, cette espèce de chronique, c'est vraiment du cinéma autre, quoi, pour
j'étais bluffé.
Le rire et le couteau qui ressortira.
De Pedro Pino,
merci, qui ressortira au cinéma dans une version longue, donc c'est une demi-heure de plus, hein, grosso modo.
5h30.
Attends, parce que là, il fait 3h30,
ouais.
Et il passe à combien ?
5h.
Ah oui, donc c'est pas une demi-heure de plus, c'est quand même...
Ouais, 1h30. Ouais.
1h30 de plus, donc le montage que lui voulait, mais les producteurs n'étaient pas d'accord. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à ce moment-là, justement, comme ça moi je le verrai.
Il faut la reposer une matinée, hein, par contre, ou un après-midi.
Et on fera ça. Il est temps de nous quitter, malheureusement, pour cette deuxième partie.
Non,
ce n'est pas fini. Nous allons continuer l'enregistrement de ce programme spécial consacré à 2025, que vous pourrez retrouver en podcast sur le site de Canal B. Oui, j'essaye de mettre un peu des mouvements parce que je dis, ah, on est qu'à fin de la
saison. On ne voyait pas, mais Étienne est en train de jouer un peu des points. Là.
Un peu comme si jouaient les bongas.
Essaye de retrouver mes esprits. Qu'est-ce que je dois dire? Oui, que vous pourrez retrouver la première partie et cette partie en podcast, bien évidemment, sur le site de Canal B. Que je remercie nos invités autour de la table. Thomas, merci.
Merci à toi, Étienne.
Merci, Jules Topoc. Merci, qui est dans son coin, là, du coup, il n'a plus de micro en plus. Merci, Erwan.
Merci à vous.
Et merci, Antonin, bien évidemment, qu'on retrouve vous tous hein, dans cette prochaine partie qui sera disponible en podcast. Et non, je ne rame pas, je fais juste les annonces. Oui. Officiel, vous pouvez retrouver tout ça, écouter en podcast et on va se...
Sur
Canal B.
Internet.
Internet.
Internet sur ordinateur.
Oh, maintenant. Super. On va se quitter puisqu'on ne l'a pas fait pendant l'émission, c'était trop intéressant, je ne vous ai pas coupé, on n'a pas fait de pause musicale. On va terminer avec notre pause musicale et c'est un morceau extrait du Rire et le Couteau, justement. Oui. Donc un morceau de Super Mama Jumbo. Qui s'appelle...
Les auditeurs de Canal B auront peut-être entendu ça dans une précédente émission de Paco.
Assalariado. Il plaît à Paco. Et voilà, et on se retrouve très vite pour la suite de notre programme. Et attention, petit teaser, on va parler de flop.
Il y aura des mots durs.
Il y aura des mots durs, il y aura de la colère, il y aura sans doute des méchancetés qui vont sortir.
Des noms d'oiseaux.
Moi, je ne suis qu'amour. Moi, je dirais jamais à deux mal au cinéma.
Ah ouais cinéma. T'es sûr
You bitch.
Mais ça, c'est son nouveau statut social qui l'oblige
à être consensuel.
Il est devenu centriste.
On attend tous quand on a un disque bien de Superman ou de Mission Impossible ou de Mel Gibson. On se retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao.
Des bisous.
Bisous.